La tuerie de Saint-Andéol, épisode 3. Un incendie, quatre corps criblés de balles, un héritage estimé à 700 000 francs, et si les Bébiens avaient été assassinés par leurs filles et leurs gendres. Les gendarmes ont de quoi les placer en garde à vue. Le 14 juin, à l'aube, Samantha et Éric Brouillas sont interpellés à leur domicile de Givors et emmenés dans les locaux de la gendarmerie. Il est 6h30, les gendarmes ont 48 heures pour transformer leurs soupçons en certitude. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Samantha et Éric sont interrogés dans deux bureaux différents. Ils sont séparés, et autant vous dire que ça ne leur arrive pas souvent. Samantha et Éric se sont rencontrés au lycée. Un coup de foudre dans la cour de récréation. Elle a 15 ans, lui 17. Deux ans plus tard, elle tombe enceinte. Une petite fille voit le jour, fin 1987. Au début, le jeune couple vit au domicile des Bébiens. Éric a perdu son père très jeune. Il voit peu sa mère. Les Bébiens l'adoubent. Vincent dira souvent que ce gendre est un peu son second fils. Samantha et Éric se marient en 1989 à l'église de Saint-Andéol-le-Château. Éric porte leur fille dans les bras, la mariée dans sa robe blanche dissimule à peine les courbes de sa deuxième grossesse. Pendant son audition, Samantha Bébien décrit un couple idyllique. Concernant la carrière professionnelle de son époux, elle est évasive. Elle s'occupe des enfants, de sa maison, le reste l'intéresse moins. Éric, diplômé d'un CAP électrotechnicien, monte des sociétés et les ferme. Il vivote. Début 95, 4 mois avant le quadruple meurtre, il a recréé une société de fermeture métallique. Le père de Samantha lui a prêté 30 000 francs avec remboursement échelonné sur 2 ans et demi à raison de 1 000 francs par mois. Et là encore, ça ne marche pas fort. Les Brouillas ont dû vendre leur voiture. Pour aller travailler, Éric utilise celle de sa mère. Samantha détaille son emploi du temps du 30 mai.
J'ai emmené les enfants à l'école à 8h15. Je suis revenue les chercher à 11h30, on a déjeuné. Et puis je les ai ramenés à 13h20 et après je les ai récupérés à 16h30. J'ai aidé la plus grande à faire ses devoirs.
Voilà la journée de Samantha, le jour du meurtre de ses parents. Une journée comme toutes les autres, tournée vers son foyer, sans rien d'autre comme horizon. Elle signe sa déposition et reste en garde à vue.
»« 10h30. Interrogatoire d'Éric Brouillas. »
Éric raconte lui aussi sa journée du 30 mai.
« Ce jour-là, je me suis levé plus tôt que d'habitude, vers 5h30 pour aller à l'atelier. J'avais un problème sur des portes métalliques que j'avais installées sur le carrefour de Givors. Je voulais être tôt à l'atelier pour pouvoir réfléchir à ça. Je suis à mon bureau, je me rends compte que j'ai oublié ma lampe torche à la maison, alors je reprends la voiture et je vais la chercher. Je passe récupérer la lampe à la maison et je repars à l'atelier. Et là, je rencontre ma belle-mère à côté de chez moi. Elle était en voiture, elle rentrait de l'hôpital. Alors je lui ai dit que je vais passer prendre un café chez elle. »
Éric Brouillas a donc pris un café chez sa belle-mère vers 7h15-7h30. À 8h30, il a quitté le pavillon des Bébiens pour son atelier. Il y reste, selon sa déposition, jusqu'à midi. Il rentre pour manger avec sa femme et ses enfants. Et l'après-midi, eh bien, il a des rendez-vous. Il rentre chez lui vers 18h30. Sur la porte, il a trouvé un mot. « Monte vite, il y a le feu chez mes parents. » Il a repris sa voiture et direction Trimoulin. La suite, vous la connaissez. L'incendie, les pompiers, les gendarmes, les corps. Cette première audition va durer 3h30. Brouillas est calme et plutôt froid. À aucun moment, il ne s'insurge des soupçons qui pèsent sur lui. Il signe sa déposition et retourne en cellule. Dans la police, on appelle ça un PV de chic. On laisse le suspect dérouler son histoire sans contradiction. Pour les gendarmes, c'est un test. Ça le met en confiance. Dans le bureau d'à côté, Samantha entame son deuxième interrogatoire. Les gendarmes l'interrogent sur les rapports entre son mari et sa famille. Samantha répond de manière fluide, simple, comme le matin. Sa famille, c'était celle d'Éric. Odette et Vincent, c'était comme ses parents. Vincent, Salvatore et Aline, c'était comme son frère et sa sœur. Le soir du drame, en rentrant chez eux, elle raconte qu'ils sont montés dans leur chambre et qu'ils ont pleuré. Quand les gendarmes lui demandent si son mari a pu jouer la comédie et tuer tout le monde, elle explose. Éric aimait sa famille. Oui, il ne roule pas sur l'or, mais l'argent, elle s'en fout. Dans un souffle, elle lâche.
Si j'avais un doute, je vous le dirais. Jamais je ne défendrai ou couvrirai mon mari tout en sachant qu'il aurait tué ma famille.
Samantha repart en cellule. Les gendarmes le savent, elle n'y est pour rien dans le quadruple meurtre. Mais ils ont réussi à instiller le doute chez la jeune femme. Et le doute, c'est comme un poison. Quand il s'est insinué en vous, il grignote tout.
17h. Nouvel interrogatoire d'Éric Bruyas.
Les questions se font plus précises, le ton plus incisif. Bruyas le sent, il se cabre. Cette histoire de café à 7h30 du matin, ça ne tient pas la route. Il part à son atelier plutôt pour travailler, pour ensuite perdre du temps à passer par le pavillon de ses beaux-parents, pour tailler le bout de gras. Bon, c'est pas logique.
J'ai croisé Odette par hasard. Je me suis dit que ce serait sympa de prendre un café avec elle.
Et le fusil à pompe qu'il a acheté 3 jours après le drame.
Je me suis dit que l'assassin pouvait aussi venir tuer ma famille.
Il a réponse à tout, Éric Bruyas. Et face à lui, les gendarmes, qui n'ont pas l'arme du crime, tâtonnent. Quand il lui signifie qu'il n'a pas d'alibi pour les crimes, personne ne l'a vu ni croisé à son atelier. Il répond.
C'est un hasard. C'est pas ma faute si mes rendez-vous ont lieu en dehors des heures des assassinats.
Il a réponse à tout, Éric Bruyas. Les gendarmes insistent. Tu possèdes des jerrycans d'essence en plastique rouge ?
Oui, j'en ai 2, des 10 litres. J'en ai 2 gris et 2 bleus aussi.
Les enquêteurs lui demandent où ils sont. Bruyas hésite. Il ne s'en souvient plus. Dans son atelier ou dans sa cave. Le matin même, lors de la perquisition au domicile des époux Bruyas à Givors, les policiers n'ont pas retrouvé de bidon. Le gendarme répète, ils sont passés où ? Et là, Éric Bruyas lâche.
Je sais pas.
Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Pour la première fois, il n'a pas de réponse à donner. Ses épaules s'affaissent légèrement. Les enquêteurs le voient vaciller. C'est le point de bascule de l'audition. Il est ferré. Ils le remettent en cellule.
22h. Bureau de l'enquêteur. 3e interrogatoire de la journée.
Brouillard s'est muet. Les gendarmes tournent en rond. Les minutes passent, les heures même. Il est 2h du matin, il va être reconduit en cellule. Les gendarmes décident de poursuivre en off. Juste comme ça, un coup de bluff. Tout ce qui va suivre est hors procédure. Ils lui reparlent des bidons d'essence, rappelez-vous. Bruyas ne sait plus où ils sont. Eh bien, les gendarmes, si. Ils les ont retrouvés, calcinés dans le pavillon des Bébiens. Photos à l'appui. Bruyas ne dit rien, il est raccompagné en cellule. Ça fait 20 heures que les époux Bruyas sont en garde à vue. Samantha entame sa 3e audition dans une sorte de ballet silencieux orchestré par les gendarmes qui tentent le tout pour le tout avant l'expiration du délai légal de la garde à vue. Leur objectif, faire basculer Samantha de leur côté, lui ouvrir les yeux afin qu'elle leur livre les éléments qui leur manquent. C'est douloureux, mais ça marche. Elle prend conscience qu'elle ne connaît pas bien l'homme avec qui elle vit depuis des années. Est-ce qu'Éric l'a soutenue depuis le drame ?
Je sais plus, pas tellement, non. Disons qu'il ne montre pas grand-chose. J'arrête pas de pleurer, lui, rien. Il ne parle pas, c'est comme un mur.
À la fin de l'interrogatoire, elle finit par lâcher qu'elle est moins sûre maintenant que son mari soit étranger à l'affaire.
3h30, 4e audition d'Éric Bruyas.
Là, il se met à table, sans question, sans pression.
Il y a une ou deux semaines, on était chez mes beaux-parents et mon beau-père dit qu'il y a une vieille chaudière dans la cave qui ne sert plus. Moi, ça m'intéressait. J'ai pas de chauffage à l'atelier. Quelques jours après, je prends des bidons d'essence que j'avais dans mon atelier et je les dépose chez eux, dans la cave. Le jour du drame, je me suis dit que je vais aller chez mes beaux-parents pour nettoyer la chaudière avec l'essence que j'avais rapportée avant. J'arrive chez eux vers 6 heures. Je frappe à la porte deux fois. Comme d'habitude, j'entre, c'était pas fermé. Et là, je vois qu'un malheur est arrivé. Aline est allongée dans le couloir de l'entrée. Il y a du sang autour d'elle. Elle est toute bleue, toute dure. Son corps était tout recroquevillé. Elle a la tête vers la porte. J'ai pas voulu la bouger. Elle était morte. Je suis resté là et puis je suis allé vomir dans les toilettes. Et après, je suis allé dans la chambre de Vincent, mon beau-frère. Et là, pareil. Il était allongé sur le dos, mort. Sa tête était environ à 1m50 de la fenêtre. Il avait une blessure au front. Après, je vais dans la chambre de la belle-mère qui était allongée sur son lit, la tête vers la fenêtre. Elle était complètement défigurée. Je me suis dit qu'il devait y avoir une dispute et que mon beau-père avait tué tout le monde.
Éric Brouillas ne veut pas que Samantha voie ça. Alors, il décide de mettre le feu à la maison et il est sorti par la fenêtre de la cuisine. Il est 5h30 du matin. Brouillas signe sa déposition et retourne en cellule. Il a avoué une partie des faits. C'est un début. Quand Samantha apprend qu'Éric a avoué l'incendie de la maison de ses parents, elle crie, hurle, pleure. Elle veut qu'on arrête. Une fois calmée, elle est de nouveau entendue et livre des éléments de mobile.
Après le drame, il était obnubilé par l'héritage, par l'argent, les assurances de la maison. Il croit que c'est un raté et que tout le monde lui en veut. Il est obsédé par ça. Il était jaloux de tout. De mes parents aussi, je pense. Ils étaient plus à l'aise qu'avant. Il était même peut-être jaloux des enfants.
Le 15 juin, Éric Brouillas est interrogé de nouveau à deux reprises. Il reste 13 heures avant l'expiration de la garde à vue. Le gendarme décide de l'interroger dans sa cellule, hors procédure. Il lui fait comprendre que le suicide de son beau-père, après avoir tué tout le monde, ce n'est pas crédible. Si c'était le cas, on aurait retrouvé l'arme dans la maison. Le tueur est ressorti avec l'arme. Et là, nouvelle version. Brouillas explique qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Un homme, type maghrébin, avec une carabine courte. Ils se sont battus. Éric pense l'avoir tué. Il le met dans le coffre de sa voiture et va jeter son corps et l'arme du crime dans un étang en bord de Rhône. Le système de mise à feu qui a entraîné l'incendie a été mis en place par le tueur. Brouillas n'a pas pensé à s'en occuper.
...38e heure de la garde à vue.
Éric Brouillas s'est emmené sur les lieux de l'étang du plan d'eau du Pin. Il refait les gestes qu'il dit avoir fait le jour du crime. Sur la berge, on retrouve trois cartouches de 22 longs rifles. De retour à la gendarmerie, il répète sa dernière version. Les gendarmes décident de confronter les deux époux pour le faire craquer. En vain. Le 16 juin, Éric Brouillas est présenté au juge Gilles Raguin qui lui signifie sa mise en examen pour assassinat et destruction par incendie d'objets mobiliers et immobiliers avec des substances de nature à mettre autrui en danger. Mais il n'en dira pas plus. À son avocat, Brouillas confiera « Quand on avoue, on se pend ». Il est écroué en début d'après-midi à la prison Saint-Joseph à Lyon. De quoi le faire réfléchir. C'est ce que je vous raconterai avec mon invité, Maître Versini, l'avocat d'Éric Brouillas, dans l'épisode 4 de cette saison. En attendant, vous pouvez nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.